Bonjour Charles Decan.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Place à votre journal des médias, le sommaire du jour.
Quel avenir pour Téléfoot ? Une série culte prépare son retour. Loïc Prigent raconte la mode en 2020 et la colère d'un poids lourd d'Hollywood.
Mais on commence par les audiences. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier soir à la télé ?
C'est France 3 qui est largement leader avec un téléfilm en rediffusion, encore une fois, Le Pont des Oubliés. 4 700 000 téléspectateurs au compteur, soit 19% de part d'audience. C'est quasiment 1 million de plus que lors de sa première diffusion il y a un an. M6 est deuxième avec la deuxième demi-finale de la France à Un Incroyable Talent saison 15. 3 500 000 personnes pour 15,7% de part d'audience et 26% des femmes de moins de 50 ans. C'est France 2 qui est troisième avec la finale de Prodige. 2 900 000 téléspectateurs et 13,5% de part d'audience. C'est 100 000 personnes de plus que TF1 qui finit quatrième seulement avec la rediffusion de Retour vers le futur.
Culture Média. Et on commence ce journal des médias avec une question assez terrible. La chaîne Téléfoot va-t-elle déjà fermer ?
C'est une éventualité qui a été évoquée pour la première fois hier au sein même de la chaîne lancée par le groupe Mediapro. La direction de Téléfoot avait organisé une réunion d'information avec la rédaction et elle leur a présenté deux scénarios pas franchement optimistes pour l'avenir à court terme de la chaîne, la fermeture ou la perte de certains droits. La chaîne Téléfoot a été lancée en août dernier pour retransmettre les matchs de Ligue 1 et de Ligue 2 dont Mediapro a acheté les droits. Mais voilà, depuis la rentrée, le groupe ne paye pas ce qu'il doit à la Ligue de football professionnelle, la LFP, soit 320 millions d'euros environ. En face, la LFP espère récupérer les droits qu'elle lui avait cédés afin de pouvoir les vendre à un autre diffuseur. Canal Plus est sur les rangs et le monde du foot français, dont la santé financière dépend du reversement de ses droits, retient son souffle.
Il retient son souffle, il croise les doigts, on en parlera dans 5 minutes avec notre premier invité, Gérald Brice-Viret, l'un des dirigeants de Canal Plus. Et puisqu'on parle de sport, Charles, le groupe M6 vient d'embaucher un consultant inattendu.
Oui, le comédien Ramzi Bedia, c'est lui qui sera l'un des commentateurs de Cage Warriors, c'est l'une des ligues de MMA dont M6 a racheté les droits. Rendez-vous sur la plateforme 6play ce samedi à 22h30 pour ses premiers pas.
Le focus programme du jour, c'est une nouvelle édition de 52 minutes de mode, ce soir sur TMC.
Loïc Prigent emmène les téléspectateurs dans les coulisses de la Fashion Week parisienne du mois de septembre. Même si on n'était pas encore reconfiné, il avait fallu s'adapter en passant souvent par du virtuel et c'est justement ce besoin d'innover qui a rendu cette Fashion Week si intéressante, comme l'a expliqué le journaliste à Louise Bernard.
En fait, c'est pas parce que c'est virtuel que les marques mettent moins les moyens. C'est-à-dire qu'ils y mettent beaucoup d'argent, donc les choses peuvent être vraiment très très belles et très impressionnantes. Ils y mettent aussi beaucoup d'idées, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de choses qui se ressemblaient. Il y a eu des défilés en poupée, il y a eu des défilés jeux vidéo, il y a eu des défilés en réalité virtuelle, donc il fallait mettre un Oculus pour les regarder. Il y a eu des défilés dans les bois, il y a eu des défilés sur des toits, il y a eu des défilés... Il y a eu toutes sortes de choses, donc c'était pas répétitif, et du coup moi j'avais jamais eu à raconter ce genre de choses, donc ça reste un exercice hyper intéressant de mode et même de témoignage, quoi.
Mais au-delà de l'organisation des défilés, le Covid a aussi une influence sur les vêtements eux-mêmes.
Les vêtements sont moins corsetés, sont plus amples, les matières sont plus... On sent qu'ils sont plus dans le confort, dans la recherche de confort, que dans la recherche d'une ostentation. Même si, bizarrement, les créateurs ont fait vachement de vêtements pour sortir. Vachement de choses disco, vachement de choses pour s'éclater et s'amuser. C'est assez étonnant. La mode, elle est toujours passionnante à observer. Pour peu qu'on s'y intéresse vraiment, c'est vraiment un médium assez incroyable qui raconte le monde. Et là, en l'occurrence, cette saison, elle a vraiment raconté le monde, quoi. C'est-à-dire que nos moments d'optimisme, nos flips, notre déprime, tout ça se retrouve vraiment dans les défilés actuels.
Loïc Prigent au micro de Louise Bernard. 52 minutes de mode, c'est ce soir à 23h sur TMC.
Attention conditionnel, une série culte du début des années 2000 pourrait faire son retour l'an prochain.
Franchement, mais qui a eu l'idée de ce truc à la con, là ? Tu veux bien me dire ?
Cette voix, c'est celle de Bruno Solo. Ce générique, c'est celui de Caméra Café qui pourrait donc être ressuscité en 2021. Le conditionnel est important. Bruno Solo, l'un des co-créateurs de la série, a été un peu surpris de voir comment une interview qu'il avait donnée au site belge Télépro avait été reprise hier. Il y évoquait un épisode spécial de Caméra Café.
On a parlé avec des gens d'M6. On leur a dit quand Caméra Café était pour la première fois à l'automne, c'était en septembre 2001. Ce serait quand même marrant de symboliser les 20 ans. Donc on s'est dit, ce serait bien de faire un Caméra Café en septembre 2021. Ils nous ont dit pourquoi pas, Et nous, comme on a un petit peu de temps hein, en ce moment, on a tous beaucoup de temps, les artistes, on s'est mis à l'écriture, à une proposition, en espérant qu'M6 l'accepte. Et si M6 l'accepte, eh bien, ce sera à l'antenne. Mais on n'a encore rien signé, il n'y a rien d'établi, il n'y a rien de gravé dans le marbre.
Voilà, Bruno Solo est donc au travail avec Yvan Le Bolloc qui lui donnait la réplique à l'écran et qui a lui aussi co-créé Caméra Café. Il a accepté d'en dire un peu plus sur le projet à Louise Bernard.
On est en train de travailler sur l'idée de faire un one-shot. Hein. Ce serait ou un 90 minutes ou un 2 fois 52 minutes. Ce ne serait pas pour relancer la série, pas du tout. Caméra Café a disparu depuis 14 ou 15 ans de l'antenne. Donc, effectivement, il s'est passé tellement de choses. Le monde ne cesse de bouger, mais il bouge peut-être de plus en plus vite et de manière de plus en plus impressionnante. Et donc, il va falloir qu'on parle de ça, que nos personnages évoquent ça sans l'avoir montré. Il va falloir qu'on fasse preuve d'imagination. C'est donc pour ça qu'on va être entre un présent, influencé par tout ce qu'on n'a pas vécu pendant 20 ans et qu'on va essayer de montrer au travers de petits sketchs et de situations que j'espère hilarantes.
Voilà les explications de Bruno Solo. Si M6 est emballé, on devrait donc pouvoir découvrir en septembre 2021 ce qui est arrivé ces dernières années à Hervé Dumont et Jean-Claude Convenant, les personnages cultes incarnés par Bruno Solo et Yvan Le Bolloc.
Le focus média du jour, c'est l'arrivée du Canard Enchaîné en numérique.
Pour la première fois, vous allez pouvoir acheter l'hebdomadaire au format numérique. Sa première édition en ligne a été publiée dès hier soir à 23h sur le site lecanardenchaîné.fr. Une petite révolution pour le journal satirique qui était jusqu'à hier soir donc le dernier titre de presse français majeur à n'avoir qu'une version 100% papier. La réflexion de l'hebdomadaire ne date pas d'hier, mais la transition vers le numérique s'est accélérée à cause de plusieurs facteurs. La faillite du distributeur Prestalis, évidemment, mais aussi la disparition progressive des points de vente et les conséquences des confinements. C'est ce qu'a expliqué le directeur de la rédaction du Canard Enchaîné, Nicolas Brimaud, à Louise Bernard.
En France, il y a 10 ans, 32 000 points de vente. Il en reste aujourd'hui entre 20 et 22 000. Dans beaucoup de villes ou villages comptant moins de 2500 habitants, les points de vente ont disparu. Donc les gens, ils n'ont qu'une possibilité, c'est d'aller chercher dans la grande surface la plus proche de chez eux. Mais d'abord, il faut faire des kilomètres de voiture pour y aller. Et ensuite, ils ne veulent pas y aller le mercredi, le jour de parution du Canard, parce que c'est souvent le jour des enfants. Le samedi, parce que c'est souvent le jour des familles. Donc ils y vont le vendredi. Et après, ils nous écrivent en râlant, disant « Mais non, mais moi le Canard, je veux le lire le mercredi. » Et puis il y a les reléages qui servent les aéroports et les gares, qui fonctionnent peu pour les gares et absolument pas pour les aéroports. Et donc voilà, le passage au numérique qui devient à ce moment-là une obligation pour nos lecteurs et pour nous-mêmes.
Numérique ou papier, le prix ne change pas, 1,20€ le numéro, mais les formules d'abonnement 100% numérique sont un peu plus avantageuses que les formules papier.
Et on peut retrouver les archives. Presse toujours, le magazine Têtu fête ses 25 ans cette semaine.
Un numéro anniversaire est sorti ce matin en kiosque, en couverture, l'icône gay par excellence, Mylène Farmer, qui se livre dans une interview. Mais il y a aussi Aya Nakamura, Jean-Paul Gaultier, Kylie Minogue, Virginie Despentes, Bilal Hassani, Lille Renault ou encore Clément Beaune. Le secrétaire d'État chargé des affaires européennes y fait d'ailleurs son coming out.
Et puis d'un mot dans ce journal des médias, la colère de Christopher Nolan.
Le réalisateur à succès n'a pas mâché ses mots pour critiquer Warner, qui est pourtant le studio qui produit ses films. Le cinéaste est scandalisé par la stratégie de sortie annoncée la semaine dernière par Warner, on en avait parlé. Aux États-Unis, tous les films du studio attendus en 2021 sortiront en même temps dans les cinémas qui seront ouverts et sur la plateforme HBO Max. Christopher Nolan accuse Warner de démanteler un système de distribution qui fonctionnait à merveille depuis de longues années. Il pense que le studio ne réalise même pas ce qu'il est en train de détruire. Pour l'heure, Warner ne lui a pas répondu.
Merci beaucoup Charles Decan. À demain pour un nouveau journal des médias. À suivre l'info.